France Culture.
Moi, c'est la course qui me passionne particulièrement, surtout la course en haute mer et sur des gros bateaux.
Je me défoncerai réellement, mais on peut se défoncer puis arriver à rien, on peut être mauvais hein, complètement. Bon, si j'étais arrivée dernière, c'est certain que j'aurais fait autre chose. Moi, j'ai envie de vivre ma vie comme ça et je fais ce qui me plaît.
Florence Artaud, l'insoumise.
Et puis, j'ai la réputation d'être, comme ils disent dans le milieu, assez bourre-la-mule, c'est-à-dire que je fonce.
La course en tête, Florence Artaud remporte la 4e route du Rhum. Par la même occasion, elle bat le record de l'épreuve. Florence a parcouru la distance Saint-Malo-Pointe-à-Pitre en 14 jours, 10 heures et 8 minutes.
François Boucher, on est à l'entrée du musée de la Marine qui rend hommage à Florence Artaud avec un portrait de cette petite fiancée de l'Atlantique, un portrait réalisé au moment de sa victoire sur la route du Rhum en 1990. Et puis au-dessus de ce portrait, il y a une photo du bateau, un bateau que vous connaissez bien.
Oui. Ben là, c'était vraiment la dernière ligne droite. D'abord, on voit la proportion entre Florence et son bateau. On voit que la différence est quand même conséquente, mais on voit un morceau de sa dérive, donc on voit que le bateau va vite. Et que l'attitude de Florence est vraiment, je dirais pas désinvolte, mais on voit qu'elle le maîtrise bien, qu'elle le connaît bien, qu'elle est pas, elle est sous pilote automatique, alors qu'un autre marin pourrait très bien être à la barre, parce que c'est des conditions un petit peu limites, vu la vitesse du bateau. Non, bah elle fait vraiment corps avec son bateau. Je pense que c'est un bateau qu'elle a vraiment passionnément aimé.
Là, tout à l'heure, j'ai retrouvé le journal de bord de ma première route du Rhum et de mes 600 000 de qualifications que j'avais fait obligatoires pour la route du Rhum. Et quand j'ai fait ces 600 000 de qualifications en solitaire, en partant de Marseille, j'avais jamais navigué toute seule de ma vie. Donc, moi, je savais pas, je me disais... quand j'ai fait ces 600 000, je me suis, en 5 jours, j'ai dormi 2 fois une demi-heure. Et je me disais, je commençais à avoir des alus et tout à la fin. Je me disais, oh, mais il paraît que pendant la guerre, c'était la pire des tortures, c'était d'empêcher les gens de dormir. Je vais devenir complètement folle et tout. Je commençais à avoir des alus, je voyais des trucs dans le ciel et tout ça. Je me disais, oh, ça doit être des petits hommes verts, ils vont venir me chercher et tout. Et en fait, c'était une découverte totale, quoi. La découverte de ce monde complètement à part, mais que j'ai découvert toute seule.
L'image que j'en ai eue d'abord, c'est de la fille qui se bat.
Isabelle Autissier.
C'est vrai qu'elle a peut-être eu un accès qui a été favorisé par les relations dans sa famille, ou etc. Mais il fallait qu'elle y aille. Et elle y est allée, encore une fois, avec une énergie quand même extraordinaire. Donc voilà, donc moi, c'est quand même, d'ailleurs, c'est l'image que je garde d'elle. Cette espèce de, pour moi, c'est vraiment cette énergie intérieure qu'elle avait et qu'elle a toujours montrée, aussi bien sur un bateau que dans le reste de sa vie, quoi. Et après, bien sûr, moi j'ai été complètement marquée par sa victoire dans la route du Rhum. C'était quand même ce que toutes les filles dans le milieu de la voile attendaient un jour, que ça se passe. Mais on savait pas quand, et on voyait que Florence était sans doute celle qui avait le plus de chance d'y arriver, pour ce qu'elle était en tant que marin, et puis parce que elle avait accès à des bateaux qui lui permettent d'être dans la compétition à plus haut niveau. Mais c'était pas écrit, hein.
Et donc, la première route du Rhum, c'est pareil. Moi, j'avais jamais fait de course. On est parti de Saint-Malo. Heureusement, la brume s'est levée, mais bon, au milieu des cailloux, dans le avec la mer qui brisait de partout, les courants et tout. Moi, j'avais jamais navigué dans les cailloux et les courants. Et puis après, cet apprentissage de la solitude, d'altitude, du rythme de sommeil, enfin toute une découverte énorme. Je pense que dans ces 28 jours de route du Rhum, j'ai découvert beaucoup plus qu'il m'aurait fallu 20 ans ou 30 ans pour découvrir tout ce que j'ai découvert de la vie et de moi par rapport à la vie dans ces 28 jours.
C'est extraordinaire le destin d'un marin, le déclic de la vocation maritime. Après tout, Florence, fille d'un grand éditeur qui publiait de magnifiques aventuriers comme Fougeron ou comme Bernard Motossier, n'était pas du tout prête à devenir elle-même l'une de ces aventurières. Et puis elle a eu cet accident de voiture,
Yann Kefelec,
qui lui a fait se poser les vraies questions. Et finalement, je crois qu'après son accident de voiture, elle a eu besoin de rester en contact avec le danger. C'est après cet accident qu'elle a fait une première traversée de l'Atlantique. Et après cette traversée de l'Atlantique, elle a dit « Je serai moi-même un marin ». Et elle a voulu faire la course du Rhum. Et ça a sidéré absolument tout le monde. Et elle est arrivée dans le milieu des navigateurs, un peu comme la petite gamine avec une cuillère en argent dans la bouche. On se disait « Bon, ben voilà ». Mais tout de même, on a tout de suite été très respectueux de ce marin-femme qui voulait vivre la même vie extrêmement rude de la mer au milieu d'un monde de mecs qui n'étaient pas du tout prêts à transiger sur la virilité du contact avec la mer pour faire plaisir à mademoiselle Florence Artaud. Et quand je parle de virilité, c'est pas du tout une virilité machiste, c'est la virilité au sens latin, c'est-à-dire vir, c'est le héros, c'est celui qui devient son propre héros, même s'il est dernier dans une course, pour avoir vaincu l'océan, ou en tout cas, comme disait Tabarly, pour être passé.
Une fois qu'on est en mer, on peut pas repartir en arrière.
Ça, c'est sûr. C'est ce que Christophe Colomb avait dit à son équipage mutiné, en leur disant, maintenant qu'on est parti, on n'a pas le choix, on est obligé de continuer à faire de l'Ouest. Et il avait continué en disant, l'homme a toujours peur lorsqu'il accomplit une chose pour la première fois.
Oui.
Et après, vous deviendrez des héros, parce que vous aurez découvert les Indes.
Cette fin des années 70, ces années 80, le tout début des années 90, c'est moi ce que j'appellerais les années nos limites, quoi. Et en particulier pour les marins français, qui ont une spécificité mondiale, qui est le développement de la course au large, en particulier en solitaire et en particulier en multicoque. Et pour lequel, ce qui est tout à fait extraordinaire dans l'univers sportif, c'est que ce sont les sportifs eux-mêmes, les marins eux-mêmes, qui disent, on va faire ça comme ça, et on va créer une course, et on va faire ci, on va aller de là à là, etc. Aucune autre compétition, ce sont les compétiteurs eux-mêmes qui vont dire, on va aller courir de là à là, ou on va aller, voilà. Et là, ça se passe parce que tout ça est complètement nouveau. Il existe évidemment les Jeux Olympiques, toutes les séries olympiques en matière de voile, qui est quelque chose de très encadré. Mais en ce qui concerne le grand large, ça va naître dans les années 60, de marins qui décident de, passez-moi l'expression, se tirer la bourre sur l'océan, et puis ça va faire des courses, et on va comme ça agglomérer des gens, et puis ça va prendre de l'ampleur, parce que tout d'un coup d'autres marins vont décider de s'en mêler, etc. Et on voit très bien, à la fin des années 60, début des années 70, les Anglais essayent de redonner un cadre et des règles à cette course au large, et les marins français disent aux Anglais « fuck ». Nous, on veut continuer à faire ce qu'on veut comme on veut, et on va s'éclater, et on va faire des grands bateaux, et on va aller encore plus vite, et encore plus loin, et sur une coque, deux coques, trois coques. Donc il y a cette espèce d'effervescence qui s'y est parfaitement à Florence, qui est parfaitement dans cette tonalité. Donc il y a de l'expérimentation technique, C'est vrai qu'avant, on n'a jamais fait de bateau comme ça. Et les Français vont être les premiers à le faire. Et encore aujourd'hui, on a en multicoque une avance mondiale. Voilà, parce qu'on a, on a continué à explorer, à pousser les portes. Donc voilà, donc c'est vraiment une période de la voile très, très particulière.
Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui partaient comme ça à cette époque-là. C'était, aujourd'hui, on ne peut pas l'imaginer parce qu'il y a les GPS, parce qu'il y a toute la technologie. Mais à l'époque, j'étais pas la seule à partir aveuglément dans ce genre d'aventure. Je crois qu'on est plusieurs à avoir fait l'école buissonnière pour faire la première route du Rhum avec plus ou moins d'expérience. Il y en a qui avaient encore moins d'expérience que moi.
À mes yeux, le bateau dont je rêve sera à la fois un but en soi et le moyen de trouver, sans le chercher, l'endroit qui corresponde à mes goûts. Pourtant, je ne crois pas qu'il me soit possible de redevenir tout à fait terrien. Et un bateau fait pour durer me permettrait de repartir, le jour où je le voudrais, de ce coin idéal, quitte à y revenir par la suite. Alors, le ciel aidant, bateau serait peut-être synonyme de liberté. Bernard Moitessier, un vagabond des mers du Sud.
Dès qu'on a quitté les côtes de vue, c'est-à-dire qu'au début, il y a quelques bateaux, et puis après, on fait chacun notre route. Et puis quand on a dépassé Ouessant, qui est la pointe la plus extrême de l'Europe, là, on savoure vraiment sa solitude et sa liberté. Le fait que, pour moi, c'était énorme, c'est parce que c'est la première fois où je prenais mon destin en main, où toutes les décisions passaient par moi, il n'y avait personne pour me dire ce que je devais faire ou ne pas faire. Et c'était une sensation formidable de liberté et de possession de ma vie et de mon destin.
Je crois que... Que ce soit Métessier, que ce soit un petit peu après lui, l'épopée des Damiens ou des gens comme ça, ou Tabarly, bien sûr. Je pense que chez Florence comme chez moi, ça a produit la même chose. C'est-à-dire l'idée de se dire c'est possible. Ça a vraiment fondé une génération et entraîné une génération sur les chemins de la mer avec cette idée-là, avec cette idée qu'on pouvait construire quelque chose, même à partir de rien.
J'étais en Savoie jusqu'à 16 ans et j'étais passionné par des mecs qui nous faisaient rêver à l'époque.
Philippe Monnet.
C'était Cousteau avec ses émissions, c'est Moitessier qui se baladait libre avec pas un rond autour du monde, qui allait dans tous les coins les plus beaux du monde avec son bateau. Pour moi, c'était extraordinaire, c'était partir au bout du monde. À une époque où, années 75, bon, il y avait quand même pas beaucoup de monde qui partait aux Antilles. On n'y allait pas en vacances, c'était le tout début.
Il y en avait qui savaient même pas naviguer, qui construisaient leur bateau dans leur garage et qui partaient en néophyte total. Et moi, ils m'ont tous complètement inspiré, mais mes idoles, c'était Tabarly et Moitessier.
Tabarly, alors il faisait des bateaux révolutionnaires, moi j'aime bien la technique, ça c'était super, et puis il gagnait, alors c'était le héros, mais en même temps il nous baladait autour du monde, parce qu'il allait faire Sydney-Hobart, c'était dur, il revenait en Polynésie avec un collier de fleurs, et pour moi c'était la vraie vie, et je pense que Florence en était bien imprégnée de tout ça, mais en même temps, dans les années 75, moi je suis parti en 76 de la Clusaz, dans les années 74-75, on commençait à parler d'une petite sirène de l'Atlantique. On la voyait, elle était toute jeune, elle devait avoir 18 ans. En plus, il y avait tous ces marins un peu bruts, un peu renfermés et tout, qui s'occupaient d'elle avec beaucoup de délicatesse. On la voyait sur certains départs de course. Tout le monde était attentionné. Alors à l'époque, il y avait tous les costauds. Il y avait Kerso, il y avait Terlin, il y avait Gabay, il y avait Parisis, il y avait Tabarly. Puis elle commençait, c'était première transat en solo. Elle partait en double, en solo, tout ça. Elle disait, je dis quand même, c'est extraordinaire. Et pour moi, c'était un personnage avant qu'elle soit connue, mais déjà dans les histoires de mer.
On a mis le bateau à l'eau il y a une dizaine de jours et on n'a malheureusement pas eu le temps de faire beaucoup d'essais avec le bateau. Cette course va être le banc d'essai pour le bateau. Je ne compte pas faire de résultats fulgurants, mais plutôt essayer de ménager ma monture pour arriver de l'autre côté dans les meilleures conditions possibles, mais mettre un frein un petit peu dans le mauvais temps, dans les mauvaises conditions qui risquent d'être dangereuses pour le bateau qui n'a jamais navigué, puisque sur un bateau neuf et un prototype en plus, il y a toujours des surprises à attendre, de bonnes comme de mauvaises, un temps de mise au point qui est nécessaire. La mise au point, ça sera la route du Rhum pour moi, donc ça se passera relativement calmement, mais j'espère dans de bonnes conditions. Enfin, en tout cas, je pars avec le moral et j'espère que j'arriverai quand même de l'autre côté bien placée.
Florence, c'est un bateau dur à manœuvrer?
C'est un bateau assez dur à manœuvrer, mais ça, je le savais, c'est moi qui choisis de faire comme ça, puisque je crois que quand on participe à une course, la chose la plus importante pour un bateau, c'est la vitesse. Donc, on a essayé de rien supprimer à la vitesse en faveur de la maniabilité et de la facilité. On a essayé de faire un bateau solide, qui puisse durer dans le temps et qui puisse résister au mauvais temps. Et par contre, un bateau qui ne soit pas très facile à manœuvrer.
Florence a toujours choisi, je pense, les bonnes personnes parce qu'elle allait voir le bon météo, le bon architecte, le bon second qui pouvait gérer l'équipe qui préparait le bateau. Et ça se faisait en plus très, très naturellement par bande de copains, de choses comme ça, mais elle allait voir les meilleurs. Et Florence, elle avait des raisonnements très simples. C'était d'abord de faire un bateau fiable. Si elle avait le budget, bah, de pouvoir le faire évoluer, ce qu'elle a fait un peu avec Biotherme, mais ce qu'elle a surtout fait avec Pierre Premier, qui a quand même été son sponsor. Et en même temps, c'est quelqu'un qui s'entraînait beaucoup, ce que faisait peut-être pas forcément d'ailleurs tous les grands marins de l'époque, que je ne citerai pas, mais elle était, dès qu'elle avait un bateau, elle était toujours en mer pour s'entraîner. Le week-end, elle sortait avec son multicoque pour se faire plaisir, et avec une bande de potes, ils allaient à Ouessant, ils revenaient, et elle était heureuse en mer. Elle était un peu plus perdue à terre, et c'est vrai qu'elle avait les yeux qui changeaient de couleur quand elle avait un bateau, et ça, c'est, je pense que c'est assez typique des gens qui sont vraiment heureux en mer et qui sont heureux quand ils ont un bateau qui puisse les emmener au-delà de l'horizon.
Florence, nous sommes très impressionnés de vous voir partir, car c'est une course très dure. Il va vous falloir vous battre seul avec les éléments. Le départ va être difficile. Est-ce que tout cela n'est pas un peu, je ne sais pas, stressant, difficile pour vous aujourd'hui ?
Non, la partie la plus stressante, elle est passée. Moi, j'étais très angoissée au moment de la construction du bateau, parce que quand on voit naître son bateau, on a toujours jusqu'au jour où il flotte, où il navigue et où il est finalement sur la ligne de départ, on a toujours des tas d'appréhensions, savoir si on s'est pas trompé, si on est allé dans la bonne direction. Maintenant, le bateau est ici, dans le bassin à Saint-Malo, et plus le départ approche, moi, je suis angoissée et plus j'ai le moral.
Aucun contact avec personne depuis les Açores.
Ah non, je savais absolument pas où ils étaient. J'ai été survolée il y a 4-5 jours, ou il y a 3-4 jours, par un brigand atlantique de Thalassa. Et à ce moment-là, je voulais pas utiliser ma VHF pour pas utiliser trop de batterie.
C'est quelqu'un qui va tout donner. Qui va tout donner pour cette chose qu'elle aime, qu'est la mer. Comme elle sera aussi capable, ça je le sais pour en avoir parlé avec un certain nombre de gens, de tout donner en amitié, de tout donner en amour, de tout donner, voilà. C'est quelqu'un qui peut pas faire les choses à moitié. D'ailleurs, on lui a assez reproché, hein, parce que ça l'a évidemment aussi conduit à des excès personnels, que ce soit du côté de l'alcool et de la drogue, c'est un mystère pour personne. Et en même temps, sur un bateau, effectivement, elle pouvait donner tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle avait en elle, et c'est pour ça qu'elle gagne la route du Rhum aussi. Enfin, faut se remettre dans les conditions de l'époque. Elle gagne la route du Rhum sur un bateau très dur, violent, un grand multicoque. Elle sort quand même d'un avortement qui s'est plus ou moins bien passé. Elle est malade à bord, elle a des hémorragies. et elle se bat comme un chien, quoi. Et elle gagne. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même une histoire. Et voilà, et c'est pour ça qu'elle est dans cette tonalité.
Quand je suis en mer, il me manque rien.
Florence Artaud, elle était comme tous les marins, elle était totalement schizophrène. Elle avait son personnage à terre et son personnage à la mer. Quand on voit les voileux en escale, on a tendance à se faire une idée trop simple et trop simpliste d'eux. On s'imagine qu'ils sont bourrés toute la journée, qu'ils sont déconneurs toute la journée, mal rasés toute la journée, ou bien rasés plutôt toute la journée, et que lorsqu'ils prennent la mer, ils sont toujours dans cette espèce d'état second entre deux vins, entre deux horizons, entre deux escales, ce qui n'est pas du tout vrai. Il n'y a rien de plus sérieux, de plus honnête avec la sécurité et avec l'élément marin, que le marin, à partir du moment où il a franchi les môles ou les passes comme ça d'un abri. Florence était exactement dans cet esprit-là. Elle était très féminine lorsqu'elle était à terre, mais dès qu'elle était dans l'élément, au contact de l'élément marin, particulièrement les pieds sur un bateau, et particulièrement lorsqu'elle était skipper de ce bateau, là on avait plutôt affaire à un loup de mer. Je dis bien un loup de mer et pas une louve de mer, un loup de mer. Il y avait quelque chose de terriblement masculin dans son comportement, dans ses gestes, dans sa force, dans ses regards, et même dans sa voix. Et au contraire, je l'ai vu comme ça, très mec et très grande gueule et très ricanante dans les bistrots des ports de la côte, et très capitaine à bord de ses bateaux.
À un moment, on a voulu réduire la voile devant. C'était Florence qui était à la barre.
François Boucher.
Et je me souviens, Patrick Morel, qui faisait la navigation, nous a dit il faut qu'on change de cap. Donc il fallait qu'on remonte dans le vent. Et donc il fallait que ça serait devenu beaucoup plus dur. Hein, et on ne pouvait pas garder la toile qu'on avait. Donc on a dû changer la toile devant. On s'est retrouvé à 3 ou 4 à manœuvrer devant pour changer la voile. Et Florence allait là-bas, elle attaquait toujours dans les vagues, comme s'il n'y avait personne devant. En général, quand il y a 3-4 équipiers sur la plage avant, à la barre, on fait un peu attention, on soulage un peu, on essaye de calmer un peu le jeu. Florence s'en foutait complètement, donc elle continuait d'attaquer. Et à un moment, on était comme 4 à l'avant, et le bateau a planté vraiment les 3 étraves dans la mer. Et moi, je me souviens, je me suis retourné vers l'arrière pour voir, et je voyais Florence qui essayait de rattraper sa barre, parce que dans le choc, naturellement, la barre lui avait échappé des mains. Elle essayait de la récupérer, le bateau s'est levé comme ça. Et on a eu beaucoup de chance, il est retombé du bon côté. Mais c'est pour vous dire que bon, Florence, elle était. Elle lâchait pas, quoi. Même quand on était à 3 ou 4 devant manœuvrer, ça changeait rien. Elle continuait de pousser au maximum. Je crois que Florence, c'est pas que je crois, je suis sûr même. Elle le disait aussi qu'elle avait une bonne étoile.
La particularité de ce genre de sport, d'abord, c'est d'être quand même à égalité, je pense, physique et intellectuelle. C'est quand même une particularité de ce sport. Mais c'est aussi que l'implication physique, elle est totale, elle est permanente. C'est quand on navigue, c'est 24 heures sur 24, même si on dort à certains moments, forcément. Mais on est le corps continue à bouger avec la mer, voilà, tout ça. Donc il y a une espèce de symbiose totale avec le bateau. C'est vrai que de temps en temps, ça peut être violent physiquement parce qu'on n'a pas le choix. En général, c'est qu'on s'est un peu trompé. Quand on en arrive à ce stade-là. D'abord, il faut savoir lâcher pour pas se blesser, pour pas se mettre en jeu, parce que c'est aussi ça, on est loin de tout et de tout le monde, et ben faut pas qu'il y ait de gros pépins quand même de santé ou de blessures ou autre. Et on est, mais moi c'est aussi ça que j'aime bien, et je pense que tous les marins aiment bien, c'est que moi je parlerais plutôt d'une espèce d'harmonie du corps avec le bateau et avec l'élément, c'est-à-dire que le corps est toujours en mouvement avec le bateau, avec la mer, avec les voilà, avec les vagues, et on est dans cette perception un peu totale des choses. Et normalement, si on anticipe bien et si on se prépare bien, et c'est ça qui est assez passionnant, intéressant, c'est d'être dans l'anticipation tout le temps. Qu'est-ce qui se passe dans 10 minutes, dans une demi-heure, dans 6 heures, demain, et à ce moment-là, on arrive à gérer à l'avance. Et puis, de temps en temps, ben, on se fait avoir. Et là, il y a de la violence, quoi. Là, il y a de la violence parce qu'on est sur des bateaux violents. C'est ça la grosse différence aussi, je pense, avec les gens qui voient de la croisière ou des choses où c'est des bateaux qui sont plus doux. Ne serait-ce que le matériau. Le carbone, c'est un matériau incroyablement violent. Quand vous êtes en haut d'un mât de 25 mètres ou encore plus maintenant, vous êtes brinque-ballé dans tous les sens parce que ni la coque ni le mât ne bougent. Ils sont incroyablement raides, c'est du carbone. Et donc chaque mouvement de la mer, même le plus infime, se répercute de manière extrêmement forte quand on est encore plus en haut du mât. Donc on est sur un univers en course, en tout cas, qui est un univers qui est physiquement en permanence dans l'agression quand même.
C'est toujours dur, quoi. C'est aller jusqu'au bout de soi-même, c'est jusqu'au bout de ses limites. On sait pas où elles sont réellement. Et quelquefois, c'est étonnant de voir à quel point la mécanique, le corps humain peut continuer, peut ne jamais craquer, ne jamais tomber, ne jamais reculer. Par contre, il faut faire attention parce que la tête, elle, au bout d'un moment, au bout d'un certain degré de fatigue, elle résonne plus bien. Et c'est là qu'on fait des erreurs. Dans la première roue du Rhum, toutes les erreurs que j'ai faites, c'est à chaque fois parce que je pensais que je dormais pas pendant 3 jours, je restais accroché à la barre en me disant comme ça, je vais tous les niquer, pardonnez-moi l'expression. Mais je pensais qu'ils étaient tous super forts, qu'ils dormaient jamais, qu'ils mangeaient jamais, que c'était des surhommes. Et puis en fait, au bout de 3 jours sans dormir, je faisais une connerie, ma tête fonctionnait plus et je perdais du temps.
Donc elle peut chercher l'extrême, elle peut chercher les choses même éventuellement violentes, mais pas dans le sens de la douleur. Et puis quand on est un bon marin, Florence était un bon marin.
Isabelle Autissier.
On se met pas en danger pour aller voir quand est-ce que ça fait mal, quoi. Hein, au contraire. Maintenant, c'est lié aussi à la période, et je pense que la mentalité a évolué par rapport à ça. C'est-à-dire que c'était une période où on refusait pas ce genre d'affrontement, ce genre un peu de corps à corps avec le bateau ou avec la mer. Aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus réfléchies en amont, où on va au contraire essayer de se rendre les choses les plus facile, on va dire, même si elles ne le sont pas en fait en réalité, mais en tout cas on va essayer de déminer, alors que à cette époque-là c'était pas dans l'état d'esprit des gens, quoi. C'était c'est dur, mais bon, on serre les dents et on y va et on baisse la tête. On voit aujourd'hui, par exemple, les marins d'aujourd'hui se préservent beaucoup de la mer et des embruns. On fait des cockpits protégés avec des sortes de comme des auvents qui peuvent se tirer pour que les marins soient à l'abri, pour qu'ils puissent barrer à l'abri, pour qu'ils aient pas trop de d'embruns dans la figure. Si on avait fait ça à l'époque, ça aurait fait hurler de rire tout le monde, quoi. Florence la première, sûrement. Donc il y avait cette idée quand même plus à l'époque, qui était aussi très caractéristique, par exemple Tabarly qui disait « mais celui qui s'attache sur un bateau, c'est qu'il n'a pas sa place à bord ». Voilà, on était dans cette idée-là. Il en est mort, malheureusement. Et puis petit à petit, après, on en est venu à s'attacher sur les bateaux, parce que tout simplement, on ne veut pas tomber à l'eau.
Mais c'est vrai qu'elle ne s'accrochait pas. Florence, le danger, c'est quelque chose auquel elle ne pensait pas en priorité. La sécurité, même si elle savait qu'il fallait quand même un peu de sécurité, mais c'était pas le paramètre premier auquel elle pensait quand elle...
François Boucher.
Quand elle naviguait. Sauf que pour le Pierre Ier, comme elle avait déjà chaviré, subi un chavirage avec son précédent trimaran en Manche, Pierre Ier, quand elle l'a conçu, elle avait rajouté dans les flotteurs un espèce de trou à rats qui lui permettait qu'en cas justement de chavirage, et si elle se trouvait à la barre sur un flotteur, de pouvoir sauter dans le trou, dans un petit abri en fait, et de pas rester à l'extérieur et être propulsé comme l'ont été pendant plein de chavirages des équipiers qui se sont retrouvés sous les filets ou qui ont tapé le mât quand le bateau chavire. Donc elle avait pas la notion du danger, mais elle savait qu'il était là. Mais c'était pas son obsession. Maintenant, ce qu'on dit toujours en bateau, c'est que pour gagner une course, faut la finir. Donc on peut pas non plus complètement occulter ce côté-là.
Florence Artaud, vous avez en plus eu des problèmes de santé. Il y a cette Minerve avec laquelle vous êtes partie, puis que vous avez enlevé en mer. Vous avez eu une hémorragie à un moment donné. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que vous avez eu envie de laisser tomber, d'abandonner?
Oui, au moment de mes petits problèmes de santé, j'ai effectivement pensé abandonner parce que en plus j'avais des problèmes de pilote à ce moment-là et je savais pas quoi faire. Et puis je me suis dit que de toute façon, même si je déclenchais ma balise de détresse, ça changerait rien. On pourrait rien faire pour moi. Donc en attendant que les choses évoluent, j'ai arrêté le bateau un petit moment et puis j'ai finalement réussi à trouver la panne du pilote et continuer à la route jusqu'ici tranquillement, en étant persuadé que de toute façon les autres bateaux m'étaient passés devant et que ce qu'il fallait maintenant, c'est que j'essaye de les rattraper.
Les souvenirs que j'ai d'hommes qui ont eu des problèmes en course, ils ont abandonné en général, hein. Mais à ce point-là, quand Florence est partie faire sa route du Rhum avec sa Minerve, encore deux jours avant, son toubib avait dit « Non, tu pars pas faire la route du Rhum ». Mais elle lui a dit « Il n'en est même pas question ». Pour elle, c'était même pas la peine d'en reparler. Quoi. Et donc, elle est partie avec sa Minerve. Bon, bah, partir avec une Minerve sur un trimaran de Saint-Malo au mois de novembre, affronter la Manche, le golfe de Gascogne... Et en plus, ça avait été une édition aussi musclée, comme pratiquement toutes les courses du Rhum. Fallait le faire. Florence, elle avait un bon coup de patte à la barre. C'est-à-dire que bon, elle sentait bien son bateau, les vagues. En fait, c'est bien barré, c'est toujours c'est sentir le vent sans avoir besoin de regarder les instruments. Et de sentir son bateau, de choisir la vague pour le faire décoller ou accélérer. Et Florence était aussi une bonne manœuvrière. Elle savait, elle était pas grande, mais elle était très 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 costaud. Elle était forte, mais elle était légère et donc elle était très agile. Et donc des manœuvres que nous on faisait en force, elle faisait avec ses moyens, avec son agilité, sa rapidité, sa souplesse. Et en fait, elle compensait énormément la force que nous, garçons, avions par rapport à son petit gabarit, parce que ça n'a jamais été quelqu'un de grand, mais elle était très tonique. Et puis, elle avait ce sens de l'anticipation qu'on est obligé d'avoir si on veut pas se planter en bateau, quoi, en fait. Hein. Anticiper le nuage pourri qui vous arrive dessus, réduire la toile avant que ça soit trop tard. Je pense qu'elle avait tous ces sens-là.
Je pense qu'effectivement, Florence, c'était quelqu'un par rapport à moi, si on doit comparer, de sûrement plus instinctif dans sa façon de naviguer. Elle, son boulot, c'était d'être pilote, quoi. Et donc là, c'est vrai que elle avait cette espèce de... Ça, je crois que c'était vraiment Florence, d'énergie extraordinaire, quand même. Hein. C'était quelqu'un qui était à la fois très déterminé, qui avait cette énergie vraiment chevillée, et qui était dans le feeling, dans l'appréciation, dans le sentiment, qui sert en bateau aussi. C'est-à-dire que, oui, en bateau, on peut avoir une façon de gérer les choses de manière très rationnelle et très scientifique, et en même temps, on a ce qu'on appelle, oui, le feeling, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais vous savez, les situations, on se dit, ça me rappelle quelque chose, quoi. Où est-ce que là, je le connais. Voilà, donc qui est cette expérience, qui est ces choses qui se transmettent un peu, qu'on avait déjà vécues. Et Florence était beaucoup là-dedans, je pense.
Oui, je crois que chacun a son style de navigation. Moi, je suis assez intuitive et assez bonne barreuse. D'ailleurs, quand je suis sur un bateau, quand on m'amène sur un bateau comme équipière, on me colle à la barre parce que je peux rester des heures. Et J'adore ça. Je trouve que c'est hyper sensuel. C'est, je m'oublie complètement. Je peux passer des heures et des journées entières à essayer de grappiller un dixième de nœud ou 50 mètres sur le bateau d'à côté. Voilà, c'est mon plaisir.
Quand on traverse l'Atlantique, par exemple, des côtes françaises jusqu'aux Antilles, hein, qui était la traversée historique classique, c'est sympa aussi d'ailleurs ça, de mettre ses petits pas dans les pas des grands marins avant nous. On part de, en gros, de la Bretagne, c'est-à-dire d'un océan avec des marées qui est de couleur en général plutôt verte ou grise l'hiver, avec des vents plutôt d'ouest, donc avec un certain type de vagues de mer, etc., de nuages. On va descendre, on va contourner plus ou moins l'anticyclone qui est aux alentours de 30 degrés nord. Donc là, on va se retrouver dans le bleu. C'est un peu le Sahara de la mer, hein. Une mer bleue, un ciel bleu, pas beaucoup de vent, donc des conditions très comme ça, très paisibles, j'allais dire, très très sereines, mais très fines en même temps quand on est marin pour trouver quand même les petits souffles qui vous portent, ce qu'on appelait les hors latitudes, que les Anglais appelaient les hors latitudes, puisque on disait que les chevaux mouraient parce que les bateaux faisaient du surplace pendant des jours et des jours et que donc les chevaux en mouraient. Et puis après, on attaque l'Alizée, qui est quand même le grand vent de l'Atlantique, en tout cas de cette partie de l'Atlantique. L'Alizée qui donc vient du nord-est pour nous quand on descend. Donc c'est des conditions idéales parce qu'on a le vent plutôt dans le dos, donc ça va vite, c'est confortable. Il fait plutôt chaud, on est arrivé aux alentours en dessous de 30, donc aux alentours de 20-25. On a une mer qui est d'une belle couleur un peu violette comme ça, il y a moins de plancton, hein, donc elle est plus bleue, foncée, violette. On a ces petits nuages sympathiques bien couchés comme ça, en colonne bien couchés, qui sont vraiment symboliques de l'Alizée. Et puis en gros, des vents relativement réguliers. Donc là... c'est tout chousse, quoi, hein. c'est le plaisir jusqu'aux Antilles où des fois on recommence à avoir des petits grains ou des petits soucis à l'arrivée. Mais en gros, c'est vrai que tous les gens qui traversent l'Atlantique par cette route-là et pour la première fois, ils en ont tous un souvenir de cocagne un peu, quoi, hein. On a juste à traîner la ligne pour essayer d'attraper un tasar ou une bonite et voilà. Et on arrive aux Antilles, et quand on arrive aux Antilles la première fois, mais on est Christophe Colomb, complètement, parce que tout d'un coup on voit les îles, même si on sait qu'elles doivent être là, mais quand même un jour on les voit.
En général, les gens nous disent « Oh, mais vous, les coureurs, vous profitez pas, vous regardez pas les couchers de soleil, vous regardez pas les nuages. » Mais on les regarde 10 fois plus parce qu'on dort 10 fois moins. Et justement, nous, notre truc, c'est l'observation aussi. C'est savoir regarder le nuage, regarder la mer, les changements de couleur, pour savoir le temps qu'on va se prendre sur la gueule ou la calmasse qu'on pourrait peut-être éviter. Et donc, c'est vraiment, on est beaucoup plus fondu dans l'élément que si on est seulement passager pour le plaisir, sans être préoccupé par la vitesse. Je crois que c'était dans le Pacifique. Plusieurs fois, j'ai vu des aurores australes, en fait. C'est comme les aurores boréales. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est... On a l'impression qu'il y a des lasers rouges plus ou moins laiteux, ou verts plus ou moins laiteux, et blancs, qui partent de l'horizon et qui convergent dans un point au milieu du ciel et ou du cosmos. Et on se demande s'il n'y a pas le bon Dieu au milieu de tout ça.
L'Atlantique, pour Florence, a tout de même été la découverte...
Yann Kefelec.
De ce trésor, de cette grâce indescriptible qu'est le flot et le jusant. Que sont le flot et le jusant ? La marée, l'influence de la lune et du soleil sur le mouvement des mers. C'est vrai que c'est jouer de cet instrument-là, la marée, et en jouer comme on apprendrait à jouer du piano, de la guitare, de n'importe quel instrument de musique, c'est un bonheur reconnu par tous les marins. Ils ont pu naviguer sur toutes les Méditerranées, sur toutes les mers du monde, lorsqu'ils arrivent à marée montante dans le golfe du Morbihan ou en baie du Mont-Saint-Michel, ils ont la sensation d'avoir affaire à une impression unique au monde. Tout ça, ça faisait partie aussi de l'émerveillement de Florence dans les ports de Bretagne. Mais il y a une notion plus terre-à-terre, et ça dit bien ce que ça veut dire, terre-à-terre, c'est qu'en Bretagne, on a le sens du carré. Lorsqu'on est en Méditerranée, on sort le thau, on est dehors, on va à la pêche aux oursins, on va se balader, mais à l'intérieur du bateau, c'est moins l'antre, c'est moins le ventre que ça ne l'est lorsqu'on est dans l'Atlantique où il fait très rapidement un peu froid. Dans les ports de Bretagne, on est dans le carré, on fait la fête dans le carré, on se raconte des histoires de mer dans le carré, on picole dans le carré, on pleure, on souffre, on a mal, on se réconcilie, on se dispute, tout ça dans le carré. Et c'est une espèce de convivialité humaine exceptionnelle. Elle aimait particulièrement ces ambiances de carré à Saint-Malo. Elle était dingue de Saint-Malo parce que c'est la ville des veilles de course, c'est la ville où on peaufine l'armement de son grand croiseur, où les amis viennent vous voir, à la fois on n'a pas trop de temps à leur consacrer, en même temps on ne peut pas s'empêcher d'être avec eux, on essaye de se planquer, de se trouver des mouillages, ils ne viendront pas, ils viennent quand même, et généralement quand on prend la course, on a plus ou moins la gueule de bois, plus qu'on ne souhaiterait l'avoir, mais tout ça, ça fait partie aussi de la force de ces instants qui précèdent le départ en course.
Cette route du Rhum, bien sûr, c'est une course en solitaire. Alors la solitude, Florence, c'est difficile à supporter ?
La solitude n'est pas du tout difficile à supporter en mer parce que on est entouré de tellement de choses et tellement belles et tellement passionnantes que finalement on est très très bien sur l'eau tout seul. Et c'est très enrichissant humainement pour soi. On est vraiment seul vis-à-vis de soi-même et entouré de belles choses. Et c'est très solennel comme moment finalement.
Ah, pour moi, c'est les émotions maximales. Je connais pas d'émotions plus fortes, à part l'amour peut-être, que celles que j'éprouve en mer.
Il m'est arrivé bien des fois, moi, je ne sais à la Trinité, je ne sais plus, d'ailleurs, au cours d'un voyage que nous avions fait un peu loin sur un grand navire, hein, de bavarder avec elle pendant des nuits entières de cette question de l'amour pour les marins, pour les gens comme ça qui s'en vont, qui laissent leur compagne ou leur compagnon à terre. Et Florence était exactement dans cette attente. Elle voulait rencontrer un grand amour unique. Elle voulait être à la fois une femme de mer. Je me demande tout de même si elle n'était pas consciente du fait que c'est relativement impossible. On disait d'elle qu'elle était la petite fiancée de l'Atlantique, ce qui est extrêmement révélateur aussi de sa vie sentimentale. Elle était la petite fiancée de l'Atlantique, à moins qu'elle n'ait été le grand amour de tous les océans, qu'elle n'ait été l'épouse unique de tous ces horizons qu'elle avait à cœur de conquérir l'un après l'autre, de charmer et de ne pas décevoir. Et la meilleure manière de ne pas décevoir un horizon, c'est bien entendu d'aller au-delà et d'arriver sain et sauf là où on a prévu d'arriver.
Départ hier à 15h de la Transat en solitaire à Plymouth, les voiliers vont mettre environ 3 semaines pour traverser l'Atlantique. Une déception chez les Français, Florence Artaud a dématé et sa réparation demandera au moins 48 heures. Florence Artaud, au micro de Pierre Gantz.
J'aurais peut-être la chance de rattraper les petits derniers. Enfin, ça ne veut plus rien dire. Quoi. Moi, je partais quand même avec l'espoir d'essayer de faire une belle performance et de bien me placer. Donc là, c'est foutu. Quoi.
Comment est-ce qu'on peut expliquer cet accident? Un manque de préparation?
Non, c'est quelque chose. C'est une erreur technique. Quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir. Hein. C'est une pièce qu'on m'a livrée. C'était pas un manque de préparation parce que la pièce était neuve. Donc ça aurait dû tenir, c'est un mauvais usinage de la pièce, une défaillance technique. Quoi.
Est-ce que vous êtes déçu ce soir?
Bah ouais, vachement, ouais. C'est normal. Et c'était important pour moi cette course. Elle a lieu tous les 4 ans. Et...
C'est vrai que la défaite, quand on met 2 ans, 3 ans ou 4 ans à trouver un partenaire, qu'après on se tape 6 mois de chantier, après on part pas pour un truc pour un 100 mètres de 10 secondes, là on part pour 4 mois en mer, 3 mois en mer, et que quand on arrive, alors là c'est là où d'ailleurs c'est assez marrant, mais ça c'est surtout sur les grands records,
Philippe Monnet.
C'est de traverser l'équateur au retour, d'avoir le record plus ou moins dans la poche, on sait que le bateau est fatigué, et là on rentre à la maison. Alors c'est vrai que l'équateur, la maison, pour beaucoup ça fait une grande navigation, mais pour nous... On rentre, et là, d'abord, il y a deux trucs qui se passent, c'est-à-dire que le grand truc pour lequel on rêve depuis un moment, qui est un des plus gros trucs qui ait jamais été fait, bah, ça va se terminer. Alors, on a l'impression qu'en fait, comme le temps s'estompe en mer, on a l'impression qu'on pourrait continuer pendant des mois et des mois. Mais en même temps, on a envie de boucler l'histoire pour qu'elle soit dans la poche. Et là, on se dit, merde, si je me prends un cargo, un filet, si jamais j'ai un truc fatigué que je dématte. Et en fait, la dernière partie du voyage n'est pas très rigolote. D'abord, on rentre à la maison, donc... Ce pourquoi on a vécu pendant 4-5 ans est en train de se finir et qu'on n'avait pas prévu vraiment la fin puisqu'on est toujours là en train de chercher des ronds. Après, on est là pour partir et puis d'un coup, on part. On s'en aperçoit même pas parce que le temps nous bouffe en fait. Et en mer, là, tout s'estompe. Et c'est vrai que ce sont des drôles de sensations.
La Transat en solitaire est une course dangereuse. Florence Artaud l'a échappé belle. Hier, son trimaran a chaviré et elle a pu déclencher sa balise de détresse. Elle a été recueillie par un cargo américain qui fait route actuellement vers Southampton en Grande-Bretagne. Florence Artaud n'était plus qu'à environ 700 milles de la ligne d'arrivée à Newport. Alors qu'il est son bateau, le Pierre Ier n'est plus qu'une épave qui dérive au large du Groenland, la quille à l'air. Il est tout de même question de le renflouer, probablement ce week-end. Il faut dire que ce genre de bête de course coûte très cher. Pour l'instant, Florence Artaud dort, elle a besoin de récupérer de ses émotions. La navigatrice a sans doute eu la frayeur de sa vie lorsque le trimaran a chaviré. Elle a perdu momentanément connaissance, mais elle n'est pas blessée. Elle a raconté ce matin à Olivier Delagarde sa mésaventure. Écoutez bien, c'est plutôt impressionnant.
J'étais à la barre sous la bulle, donc je suis tombée à l'intérieur quand on a chaviré. J'ai perdu connaissance, je pense, parce que j'ai dû perdre connaissance 2-3 minutes. J'ai regardé le bateau chavirer, enfin bon, j'ai choqué toutes les voiles, ça n'a rien fait, puis j'ai vu le mât tomber dans l'eau. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dû tomber sur la tête et j'ai perdu connaissance, parce que je me suis réveillée et je cherchais mon petit frère, que je ne trouvais pas, et je disais, mais il y a quelqu'un?
Et sinon, quel est votre état de santé?
Ça va, je suis très fatiguée. Enfin, je suis fatiguée. Je suis en bonne santé, je suis en forme, mais la course était fatigante. J'ai pas beaucoup dormi. En plus, j'ai eu beaucoup d'ennuis de latte de grand voile qui m'ont fatiguée parce que, bon, la nuit d'avant, par exemple, la nuit dernière, j'ai passé mon temps à réparer, à renvoyer la grand voile, à la faler, à réparer, tout ça. Ça m'a fait perdre du temps et c'est pour ça que je voulais rattraper aujourd'hui. Et puis voilà quoi.
Et voilà, plus de peur que de mal pour Florence Artaud. Loïc Perron sur Fujicolor poursuit lui sa route sans problème en tête des concurrents de cette Transat et on l'attend demain matin à Newport.
La pratique de la voile, ça coûte cher. Surtout sur des bateaux sophistiqués, complexes et qui vont très vite pour faire des courses, ça coûte très cher. Donc si on n'est pas petite fille de Rothschild, il faut trouver... Alors maintenant... Pudiquement, on appelle ça les partenaires financiers. Sponsor, ça fait un peu méchant. Mais en tout cas, il faut trouver des gens pour qui on va réussir à tricoter les stratégies. C'est-à-dire la leur, qui est une stratégie commerciale et médiatique, et puis la vôtre, qui est une stratégie de coureur et de sportif. Donc, ça se trouve pas du premier coup, surtout qu'encore une fois, c'est souvent des sommes en jeu qui sont relativement importantes. Je pense que Florence, comme moi, elle a à la fois au début... bénéficier du fait que nous étions des femmes, donc c'était plus exceptionnel, donc Immédiatement, le sponsor savait que de toute façon, on allait parler de nous, quoi qu'il en soit, déjà avant le départ. Donc, c'était une sorte de bonus au sexe. Par contre, on était défavorisés par le fait que pendant longtemps, le sponsor se disait « une femme, ça ne va pas gagner ». Donc, il a fallu quand même là arriver à prouver que de temps en temps, pas toujours, mais quand même de temps en temps, on était aussi capable de gagner.
Et en 92, l'immobilier allait très très mal. Mon sponsor qui était dans l'immobilier, Pierre Ier, a été obligé de vendre le bateau. Et donc, je me suis retrouvé en 92 en train de chercher des sponsors pour refaire un autre bateau, puis j'ai pas trouvé. Il n'y a pas que moi qui ai pas trouvé d'argent, il y a eu une véritable creux de vague, et j'ai préféré j'ai fait autre chose, voilà.
Elle était perdue à terre quand elle n'avait pas de sponsor. Mais en même temps, pour lui faire un rendez-vous, c'était pas facile non plus, hein, parce qu'on n'était pas sûr qu'elle vienne, même si c'était avec un des tout grands big boss. Parce que c'était elle. Mais par contre, si le mec comprenait ce qu'avait compris le patron de Pierre Ier, s'il lui mettait un bon second et tout, là, elle donnait tout l'essentiel d'elle-même. Et c'est la nature aussi de ces gens qui sont exceptionnels, c'est qu'ils sont en même temps fragiles. Sur un bateau, elle était indestructible, à terre, elle était fragile. Parce qu'à un moment, Florence, ouais, elle a eu un peu d'addiction à fête, mais en fait, c'est aussi quand elle était à terre qu'elle ne trouvait pas de sponsor. Donc, elle s'enfermait dans Paris avec tout un tas de copains ou copines à elle. C'est là où elle était un peu perdue à terre. On a tous essayé de la raisonner un peu. À un moment donné, on l'a fait déménager un peu sur Marseille. Mais ça n'a pas été mieux non plus à Marseille, mais elle était quand même au bord de la mer. Donc, elle avait ses périodes de... c'était, je pense, un peu des périodes de détresse. Mais on n'a jamais su à faire. Mais en même temps, c'est là où on disait qu'elle était ingérable. C'est qu'on pouvait lui dire quelque chose, mais ça ne la touchait pas, quoi.
Le plus beau moment de la course et de l'arrivée, ça a été pour moi hier matin, quand au lever du jour, j'ai découvert la Guadeloupe avec un petit avion qui m'a survolé, Olivier de Kersauzon qui m'a annoncé que j'étais toujours en tête. Et là, c'était vraiment formidable parce que c'était un moment vraiment sympa, comme il peut y avoir dans ces climats, avec des lumières formidables le matin au lever du soleil, toute seule, sans personne à l'horizon, en arrivant en Guadeloupe, tranquille, et en apprenant que j'étais en tête. Et je trouve que ça avait la magie des années d'avant, où quand Tabarly arrivé après plusieurs jours où personne ne savait où il était, il apprenait qu'il avait gagné la course.
Ça aussi, c'est sa dimension Tabarly. C'est pas qu'elle se croyait invulnérable, mais elle avait l'impression tout de même que la mer lui pardonnait ses excès. Et que de même qu'il existe un bon Dieu pour les ivrognes, il existe une espèce de bon Dieu océan pour ceux qui l'affrontent au risque de se perdre. Ça a été le cas de Florence jusqu'à la fin. J'ai surtout eu l'impression, si vous voulez, j'ai eu cette impression souvent avec les marins, lorsqu'ils s'en remettent à Dieu, au large, ils n'ont pas le choix, c'est-à-dire ils ont besoin que les éléments leur pardonnent quelque chose. Non pas leur incompétence, mais leur fragilité en face de ce qui est plus fort que tout, c'est-à-dire la mer. Il faut d'ailleurs avoir une relation sacrée avec la mer. C'est très difficile lorsqu'on est au large la nuit de ne pas être saisi déjà par la pression d'immensité. Cette impression d'immensité est redoublée de la pression contraire. Juste après, on a une impression d'intimité. D'intimité avec ce qu'il y a de plus grand, c'est-à-dire le ciel étoilé, l'infini, les astres, mais on a aussi l'impression de naviguer sur une étoile. Et cette impression d'immensité se crée immédiatement la question d'un créateur.
Oui, c'est vrai que Florence, elle avait un côté... elle croyait en Dieu, et puis elle avait un côté superstitieux, héritière évidemment des traditions de marins, donc prononcer le mot de lapin à bord, partir un vendredi, peindre son bateau en vert, tout ça c'était des choses que Florence n'aurait absolument pas pu imaginer, quoi. Et je pense qu'elle faisait bien attention de, par exemple, de même pas avoir de boîte de pâté de lapin ou de choses comme ça à bord. C'est en fait des superstitions qui sont tout simplement, à mon avis, héritées du fait que Pendant longtemps, on ne comprenait pas ce qui se passait avec la météo, la mer, pourquoi tout d'un coup il y avait une tempête, pourquoi il se passait ci ou ça. Et qu'on s'est construit des références, on s'est construit une méthode de compréhension du monde, de compréhension de la mer à travers des superstitions. Il y avait des superstitions qui étaient encore plus terribles, puisque parfois on désignait une personne à bord comme étant celle qui avait le mauvais œil, et ça pouvait finir par des meurtres quand même, donc ça pouvait aller très très loin. Mais je crois que c'est vrai que le monde de la mer à la fois était un monde très religieux, hein, la figure de la Vierge Marie, bon, en tant que femme sublimée, mais aussi en tant que protectrice des marins, les ex-voto, voilà, donc une tradition très religieuse, et en même temps, effectivement, pour le coup athée, enfin, mais pleine de superstitions, qui permettait d'expliquer le monde, je crois. Et à la différence de la terre où les choses sont assez stables, en mer ça bouge tout le temps, on ne sait jamais ce qui va vous tomber sur le coin de la figure. Et ça a perduré. Moi je suis trop scientifique pour être superstitieuse, et je pense que d'ailleurs c'est en train de passer extrêmement vite. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé à naviguer, je voyais encore un certain nombre de marins. Comme Florence, comme aujourd'hui, ça devient rare sur les bateaux. Les gens qui vous disent, si ça vous échappe de parler de lapin, qui vous reprennent immédiatement en vous faisant les gros yeux, ça devient de plus en plus rare.
La pensée que j'en avais fini avec la terre pour bien des mois à venir faisait naître en moi un calme profond, et comme le sentiment de me suffire à moi-même. Les marins me comprendront. Marlowe fit un signe de tête affirmatif. « C'est un sentiment rigoureusement professionnel, expliqua-t-il. Mais les autres professions ou métiers l'ignorent complètement. Seule cette vocation, dont l'attrait réside essentiellement dans la promesse d'aventures incessantes, offre ce sentiment profond à ceux qui la suivent. Il est difficile à définir, j'en conviens. Je l'appellerai la paix de la mer. Joseph Conrad. Fortune.
Maintenant, ce que je trouve assez à la fois étrange et intéressant, c'est qu'il n'y a toujours pas beaucoup de femmes en course au large. C'est-à-dire qu'effectivement, on a pris la Bastille, mais derrière, ben, ça reste culturellement compliqué et culturellement difficile. Même si les bateaux sont physiquement aujourd'hui moins durs, hein, je pense, que évidemment qu'au 18e, mais même qu'il y a 30 ou 40 ans, on a toujours l'impression que les femmes en mer, c'est toujours encore un peu des défricheuses, quoi.
Est-ce que d'ailleurs la liberté existe? Mais en tout cas, moi j'avais l'impression de me sentir libre dans ces moments-là.
Florence Artaud, L'Insoumise. Avec les navigateurs Isabelle Autissier, François Boucher et Philippe Monet. Et l'écrivain Yann Kefelec. Merci au Musée de la Marine, à Sylvie David Riverieux et Sylvia Simone, ainsi qu'à Odile Gagné. Texte lu par Anne-Lise Heimburger. Archivina, Denis Forget. Prise de son, Bernard Laniel. Mixage, Claude Niort. Un documentaire réalisé par Anne Franchini et signé Martin Kenéen.